Vous écoutez RTL. RTL Soir.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
19h18 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste Hélène Pilichowski. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Marco.
Avec le psychanalyste Gérard Miller, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Jean-Luc Manot, conseiller en communication, bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir.
Et avec l'éditorialiste du Figaro, Yvan Youfol, bonsoir Yvan.
Bonsoir.
La colère est donc dans le pré. La FNSEA a donc rencontré aujourd'hui François Hollande et Stéphane Le Foll à l'Élysée pour réclamer un accompagnement de l'État rapide et efficace. Pendant ce temps-là, de nombreux paysans occupent toujours le terrain un peu partout en France. Vous avez entendu tout à l'heure donc à Saint-Lô, ça a dégénéré. Le président de la République a promis de s'exprimer avant le salon de l'agriculture à la fin du mois. Alors, comment sortir de cette crise? Est-ce qu'il faut d'ailleurs sacrifier le ministre, même si ce n'est pas le principal dans le sujet, mais peut-être que c'est l'un des sujets aussi. Sur les réseaux sociaux, Benoît?
On y trouve des réponses très différentes. Pour les uns, c'est la FNSEA qui empire la situation, ces richissimes hommes d'affaires déguisés en pauvres paysans, comme dit André. Les dégâts provoqués par les éleveurs bretons, estimés à 4 millions d'euros, ça suffit. Xavier Belin s'énerve aussi pêcheux. Pour Robert, la faute au gouvernement, qui en se brouillant avec Poutine, n'a pas calculé les sanctions sur les paysans français. Et les Russes profitent de cette crise pour relancer leur agriculture. Pour Chabru, le gouvernement est un problème, en effet. Stéphane Le Foll n'y connaît rien et Hollande ne bougera pas si ça lui rapporte pas de voix, écrit-il. Il pourrait quand même lâcher quelques millions pour les faire patienter jusqu'en 2017, propose Vox. Mais pour certains, ce sont justement les aides le problème. Delmar Rail, ces agriculteurs pleurnicheurs qui savent pas vivre sans subventions payées par le contribuable. Pour Tonton, si on consommait français, déjà, la crise serait moindre. À ce sujet, d'ailleurs, David en appelle à la responsabilité des grandes surfaces. Oui, c'est l'industrie agroalimentaire et la grande distribution qu'il faut vraiment contrôler. Mais il faut du courage politique, confirme Patrick. Et leur matériel agricole, à eux, il est français. Ras-le-bol de payer pour ces ingrats qui remboursent leur casse, tacle Blaireau. Thierry s'inquiète, au contraire, ils sont pris dans l'engrenage de course au volume et aussi de l'agrandissement des surfaces. Qui peuvent les agriculteurs? Rien, Le Foll non plus n'y peut rien. Que les agriculteurs reposent en paix, répond froidement Marc. Béni, plus optimiste, conclut qu'ils peuvent déjà revenir à des exploitations raisonnables, privilégier les circuits courts et ne plus suivre cette FNSEA.
On va commencer par celui qui, a priori, connaît mieux le sujet, Gérard Miller, puisque vous êtes paysan.
J'ai été paysan ouvrier agricole quand j'étais jeune, et là, j'ai la chance en Ardèche d'avoir une maison, et notamment, il y a un fermier, un jeune homme d'une trentaine d'années qui fait le lait, les veaux et les vaches, avec qui donc je parle très souvent, et qui m'a expliqué la situation. Je vais vous donner juste quelques chiffres pour que les gens comprennent bien. Actuellement, le litre de lait, il est à 30 centimes, acheté au producteur, grosso modo, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il était par exemple à 35 centimes il y a un an, il est monté jusqu'à 40-42 centimes. Le prix du lait est fixé de façon totalement arbitraire, c'est-à-dire que les paysans n'ont aucun moyen, ils reçoivent une lettre. Il se trouve que ce paysan travaille avec Danone, il reçoit une lettre chaque mois, on lui dit voilà, on vous paye tant, point final. L'État n'y est pour rien, s'en désengage. Je prends un deuxième exemple.
Enfin, s'en désengage, Stéphane Le Foll a expliqué qu'il ne pouvait rien faire, voilà, surtout. Il s'en désengage, il n'a pas
désengage,
d'autre possibilité que de s'en désengager.
L'État était plus engagé. Et je me permets de donner ces chiffres et ces données pour savoir, chez les libéraux qui sont autour de la table, qu'est-ce qu'ils pensent justement du désengagement de l'État. Prenez le cas du veau. Il y a eu effectivement, vous le savez, une maladie. Le veau que vend ce jeune agriculteur, il le vendait 250 euros. Il y a encore très peu de temps. Aujourd'hui, vous savez combien il le vend? 50 euros. Quand il arrive à le vendre, 50 euros, et il ne le vend quasiment plus. Enfin, le marché vient de réouvrir puisque la frontière avec l'Espagne s'est réouverte pour le veau. Donc, vous imaginez, d'un seul coup, on vous dit, le veau que vous vendiez 250 euros, vous le vendez 50 euros. Et qu'est-ce qui se passe sur le marché de la viande? Il y a une concentration incroyable. Actuellement, Bigard, pour le citer, et malheureusement lui faire de la publicité, a racheté quasiment tous les autres, Charal et compagnie. Donc, il y a un grand propriétaire, un grand possédant qui fixe le prix exactement comme le prix du lait est fixé par la grande distribution. Donc quand on demande quelle solution, la solution c'est entre autres que l'État se réengage un tout petit peu dans ces mesures-là.
Mais comment ?
Alors comment ? Écoutez, à un moment donné, il y avait des commissions, même il n'y a pas si longtemps, où l'État était encore présent, on pouvait encore un tout petit peu influer sur la grande distribution et sur des concentrations incroyables. Vous avez tous lutté ici contre le communisme à juste titre parce qu'il y avait des concentrations incroyables. Aujourd'hui, vous vous trouvez avec un système capitaliste qui aboutit exactement au système soviétique, c'est-à-dire que tous les prix sont décidés par extrêmement peu de gens de façon totalement arbitraire.
Oui, mais sauf Hélène. Que, est-ce que l'État français peut s'engager dans un secteur qui est du ressort de l'Europe? C'est ça le problème. C'est que j'ai vraiment le sentiment que ces agriculteurs, qui suscitent beaucoup d'empathie de notre part, quand on vit à Paris et qu'on entend leurs témoignages, on ne peut que souffrir, au sens vraiment étymologique du terme, avec eux. C'est-à-dire quand ils vous racontent qu'ils ont moins 4 000 euros par mois, qu'ils perdent tous les jours de l'argent.
Moins 4 000 euros, je n'en connais pas. Ce jeune homme, je suis sûr qu'il gagne.
Oui, mais je connais qu'il disait je perds 4 000 euros.
Ah, d'accord, qu'il perd. Oui, parce qu'il faut dire que les gens, en général, gagnent moins que le SMIC.
Non, non, mais c'est ce qu'on a entendu de la part d'Hélène.
Il perd 4 000 euros par... Il y en a un qui disait, je perds en ce moment 4 000 euros par mois avec mon exploitation. Effectivement, on ouvre des yeux, on écarquille les yeux, on se dit, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir? Mais je pense qu'ils sont victimes de deux choses. Ils sont au confluent de deux difficultés. L'État français, qui peut-être s'est désengagé, mais pourquoi? Parce que l'Europe a pris le pas sur le domaine agricole, hein, puisque c'est la PAC qui régit l'agriculture en France, qui donne, qui octroie les subventions. Donc, qu'est-ce que vous voulez que fasse l'État? Et en même temps, il y a toujours le modèle social français qui est coûteux et auquel ils contribuent, parce qu'ils vous disent tous qu'ils ont des charges terribles, ils payent très cher et ils n'en profitent absolument pas, parce que le modèle social, il sert pour avoir des congés, pour avoir certains avantages, mais eux n'en ont pas, ils quittent jamais leur exploitation. Donc ils ont une situation extrêmement difficile. Et quand j'ai écouté Stéphane Le Foll dimanche matin à l'émission...
C'est pas bien, parce que c'était pas
c'était
ici.
Pas, c'était chez votre confrère préféré, voilà. J'ai pas eu l'impression qu'il avait des solutions, à part de dire que peut-être que les banques devraient peut-être faire quelque chose. Mais leur accorder des facilités bancaires, c'est pas améliorer leur compte d'exploitation.
Ouais. Jean-Luc, sur l'Europe pointée du doigt par Hélène, vous aviez l'air un peu sceptique.
Non, c'est pas sur l'Europe. Moi, on connaît tous des agriculteurs, j'en ai à côté de chez moi, qui font aussi du lait, qui sont dans une situation absolument impossible. C'est-à-dire que le moment où on vend ces produits moins chers que le prix de revient de la production est évidemment inacceptable sur le plan financier, et c'est une violence qui est faite à l'honneur du métier, du travail. Ils ajoutent que les normes qui s'accumulent sont extrêmement difficiles, que les frais engagés pour être dans les normes, qui sont des normes européennes la plupart du temps, rendent les choses très difficiles. Moi, ce que je remarque avec un peu d'espoir d'ailleurs, c'est que les revendications du monde paysan, du monde agricole ont changé. C'est-à-dire qu'on avait, il y a 10 ans, des demandes d'aide, de subventions, de mesures d'urgence, d'argent, en clair, pour venir au secours. Mmh. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dignité dans la revendication agricole. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui disent « nous ne demandons pas l'aumône, nous demandons un système qui soit rémunérateur pour notre travail ». Et là, on est dans quelque chose qui a beaucoup évolué. Deuxième remarque que je veux faire, c'est que il n'y a pas les agriculteurs, ça n'existe pas ça. Il y a des situations avec des agriculteurs qui ont des situations extrêmement différentes. Il y a des agriculteurs qui ont des très grandes propriétés, qui sont des producteurs. On prend toujours l'idée des producteurs de céréales, bosserons, c'est sans doute injuste parce que c'est pas les seuls, mais enfin, qui eux sont dans des dimensions et dans des structures qui leur permettent de survivre. Il y a une petite agriculture. La question qui est posée, c'est qu'il faut avoir le courage à un moment donné de se poser la question et de savoir, et c'est sans doute ça le rôle aussi du gouvernement, de tous les gouvernements, parce qu'ils n'ont pas été meilleurs les uns que les autres, et de l'État, c'est de dire quel est le modèle agricole que nous voulons pour ce pays. Est-ce que nous voulons continuer à avoir un système de petites et de moyennes exploitations, ou est-ce que nous voulons seulement des grandes? Ça répond à la question, est-ce qu'on peut... Pourquoi en Allemagne, il y a une agriculture qui n'est pas dans les mêmes difficultés? Pourquoi en France, nous avons une...
Parce qu'elle sont beaucoup plus grande en Allemagne.
Oui, naturellement. Mmh. C'est un les agriculteurs allemands qui font du lait, par exemple, ils ont 5 fois, 6 fois, 7 fois plus de têtes que nous n'avons en France. Mais c'est un modèle, c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut toujours avoir des petites exploitations ou pas ?
Yvan Huffol ?
Beaucoup de choses ont été dites. Moi, je pense en effet que les agriculteurs sont d'authentiques victimes. Ils sont d'authentiques victimes d'un système européen, en effet, qui marche sur la tête. Et une partie de la solution se trouve, en effet, en Europe et échappe par définition au ministre de l'Agriculture, mais les agriculteurs sont victimes également, si je puis dire, d'une sorte de mépris qui a été porté sur eux pour ce qu'ils représentaient. Ils sont l'ADN de ce que nous sommes. Nous avons tous eu un ancêtre paysan. Or, ce mépris, je n'enlèvera pas de l'idée que ce mépris qu'il y a encore un peu aujourd'hui pour les racines, la ruralité, les traditions, a été aussi un mépris qui a été... pour les agriculteurs eux-mêmes. Quand vous savez qu'il y a eu 100 milliards d'euros qui ont été déversés sur les banlieues dans le cadre de la politique de la ville qui a été ouverte, cette politique, depuis à peu près 20 ans, combien de millions ont simplement été...
Les agriculteurs ont quand même eu la moitié des ressources de l'Europe.
Certainement pas 100 milliards.
Et en plus,
ce système de subvention est en effet faussé. Donc je pense que les solutions, elles reviennent d'abord
Donc vous nous dites que le problème des agriculteurs, c'est la faute des banlieues, un peu, d'une certaine manière. On a trop donné aux banlieues au détriment des agriculteurs.
Je pense qu'il
y a eu un déséquilibre des politiques, une politique qui a été exclusivement sur la ville, qui n'a pas été suffisamment
Jacques
sur
Chirac
la ruralité. En effet, je le pense. Et je pense qu'il y a une empathie aujourd'hui, si l'on veut sortir de ce système, une empathie à réaffirmer. D'ailleurs, ça se fait, parce que les Français se sentent tout à fait solidaires des agriculteurs, même quand ils bloquent les routes dans des départs en vacances. Et donc, il faut se rendre compte qu'il faut aujourd'hui sauver cette agriculture, parce que sauver cette agriculture, c'est sauver l'ADN de ce que nous sommes, l'ADN de la France. Ouais. Et puis, il y a des solutions plus ponctuelles, peut-être en effet de leur soustraire quelques charges qui sont trop importantes. Lever cet embargo russe qui les empêche d'accéder
au marché. On va pouvoir développer ça dans
un instant. Dans la série des autocritiques, les agriculteurs eux-mêmes pourraient quand même en faire une, parce que ça fait quand même des décennies qu'ils votent à droite. On ne peut pas dire que ça leur a formidablement réussi, si vous me permettez cette petite remarque.
On y revient dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
On refait le monde à 19h31 sur RTL avec Gérard Miller, Yvan Rioufol, Hélène Pilichowski et Jean-Luc Manot. Donc on parle encore un peu des agriculteurs avant de partir aux États-Unis et parler donc de la primaire hier dans l'Iowa. Vous disiez, Gérard Miller, que la droite n'avait pas été très reconnaissante avec les agriculteurs qui ont toujours voté pour eux. Mais aujourd'hui, est-ce que la gauche, est-ce que Stéphane Le Foll est à la hauteur des enjeux?
Bon, je ne le pense pas, mais comme je ne pense plus que c'est la gauche qui est au pouvoir aujourd'hui, je serais mal placé pour dire qu'il y a une vraie différence entre les deux. Non, je crois qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et surtout, on a pris l'habitude, effectivement, d'avoir des circuits de plus en plus complexes. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on ne comprend plus qui fixe les prix. On sait grosso modo que c'est la grande distribution pour le lait. On sait grosso modo que c'est des entreprises comme Bigard pour la viande. Mais c'est ça qui est très frappant, c'est que les gens reçoivent quasiment l'information sans savoir vraiment, devant qui manifester. Enfin,
Stéphane Le Foll avait essayé de les fixer, les prix, l'été dernier, Jean-Luc Manot.
Oui, il y avait une tentative qui a été un peu, comment dire, burlesque, voire ridicule, parce que on voit mal comment un gouvernement peut dire il n'avait pas fixé le prix du porc. Mais il y avait un conseil des ministres surréaliste où on avait discuté de savoir quel était le bon prix. Et le gouvernement de la République avait dit c'est 1,40. Bon, sans aucun moyen de le faire appliquer. Bon, deux choses.
C'est complètement idiot de dire qu'il y a pour les choses un juste prix. Pour le lait, par exemple, il y a un juste prix qui n'est pas de 30 centimes.
Sans doute, naturellement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le Conseil des ministres qui puisse en délibérer. La deuxième...
Gérard aimerait bien, d'une certaine manière.
Oui, moi j'aimerais que l'État reprenne un certain nombre de prérogatives.
De la vraie gauche, et d'ailleurs...
À condition d'être de gauche.
Et d'ailleurs, dans tous les systèmes et tous les pays où le Conseil des ministres fixe les prix, on voit bien que ça a formidablement fonctionné. Mais, pour venir sans polémique, parce que je ne crois pas qu'il y ait des différences énormes entre ce que fait un gouvernement de droite et ce que fait un gouvernement de gauche, qu'il soit réellement de gauche ou réellement de droite, sur les questions de l'agriculture. Parce que c'est un problème qui est un problème structurel. C'est pas savoir s'ils sont bons, mauvais, juste ou pas juste. La question, elle est la dimension de nos exploitations, elle est la recherche de qualité, quand même, quand des gens font... Si vous avez un paysan qui fait de la qualité et qui fait des circuits courts... Les témoignages qu'on entend sont que ça marche plutôt pas mal. Donc il y a sans doute quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre structure. Oui. Pour répondre tout à l'heure, simplement, Yvan disait, moi je me méfie de la compétition victimaire. C'est-à-dire, vous savez, quand Macron dit les patrons sont plus en danger que les employés, et là quand on dit on a donné trop aux banlieues parce qu'on n'a pas donné aux autres, d'abord, je crois pas que ça puisse exactement se discuter comme ça. Donc il y a des victimes. Il y a des victimes globalement, elles sont victimes d'un système qui ne fonctionne pas.
Vous voyez bien qu'il y a des victimes qui intéressent moins que d'autres. Moi, je voudrais bien qu'il y ait un SOS agriculture comme il y a un SOS racisme, par exemple. Mais bon, je ne vais pas aller là-dessus. En effet, c'est inutilement polémique. Moi, je suis d'accord avec vous de dire, mais je ne suis pas un spécialiste à ce point, de dire qu'il faut repenser, en effet, la structure agricole qui me paraît être beaucoup trop dépendante de marchés extérieurs et de revenir à des circuits courts, à des circuits peut-être beaucoup plus... compréhensible, ne serait-ce que dans les mécanismes économiques, un circuit plus écologique, et surtout se souvenir qu'il y a des agriculteurs qui s'en sortent, et peut-être aller voir auprès d'eux comment ils font pour s'en sortir.
Mais il faudrait
et donc j'imagine qu'il y a quand même des solutions, et que ces solutions,
oui, mais parce qu'il faudrait se rappeler ce qu'on disait au début.
Hélène, c'est-à-dire pour conclure sur le sujet.
Il y a juste des disparités de situation. Voilà. Il y a les grandes exploitations, et c'est à celles-là que devrait être dévolue, par exemple, la production du lait, parce que c'est un marché qui est presque international, malheureusement. On peut se dire, mais c'est pas possible, comment on boit du lait étranger en France? C'est comme ça, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Et puis que des petites exploitations qui sont tout à fait, se maintiennent, elles, dans la production de qualité, de produits spécifiques, de produits du terroir, de produits
pour cette profession,
estampillés Bretagne, sud de la France. Mais voilà, c'est-à-dire que là, on a l'impression que la réorganisation en France ne s'est pas faite. Alors que la mondialisation l'aurait exigé.
Donc dans la fonctionnalisation, dans une sorte de nationalisation de l'agriculture, ce qui n'est pas du tout, évidemment, ce qu'est l'agriculture. Donc il faut aller sortir tout de suite de ce piège-là.
Allez, à suivre, direction les États-Unis, donc avec la course à la Maison Blanche qui a démarré.
RTL Soir. On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel.
19h38 sur RTL, on refait le monde ce soir avec Jean-Luc Manot, Yvan Youfol, Gérard Miller, Hélène Pilichevski. Heureusement, Hélène, que les micros n'étaient pas branchés. Les sondages, ça trompe énormément. C'est peut-être ce que se dit ce soir le candidat conservateur aux primaires américaines, Donald Trump, donné favori avant le caucus de l'Iowa. Il a pourtant été sèchement battu par son rival Ted Cruz. Côté démocrate, donc, on vous l'a dit, Hillary Clinton revendique la victoire face à Bernie Sanders d'une courte tête. Alors ce soir, on compte les points. Quels sont les leçons de cette première étape dans la course à la Maison Blanche sur les réseaux sociaux, Benoît?
Trump qui trébuche, Cruz qui pavane, Rubio qui espère et Clinton qui souffre. Voilà les quatre leçons de ces primaires, selon le site de Libé. Mais les internautes français retiennent, eux, les surprenant résultat de Bernie Sanders, le socialiste qui accusait 20 points de retard sur Hillary et encore 2 mois et finit au coude à coude. Waouh, 84% des démocrates de moins de 30 ans ont soutenu Sanders. Ils étaient 57% à voter Obama en 2008, hallucine François. Époustouflant, confirme Vincent. Oui, mais sur le plan national, les jeunes américains votent très peu, tempère Jérôme. Et puis pas de souci, les médias américains vont se charger de son cas, ajoute Pierre. Pour Christophe, la leçon du vote dans l'Iowa, c'est que les électeurs américains sont en colère, avides de changement. Ouais, enfin, Trump, c'est le Marine Le Pen américain, toujours en tête dans les sondages et les médias, mais jamais gagnant, compare Tommy. Beaucoup d'internautes français découvrent également qu'en cas de résultat trop serré, on désigne le gagnant à pile ou face. Ça fait un peu western spaghetti quand même, cet un crispy. 6 tirages à pile ou face, 6 tirages favorables à Clinton. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, d'Outre-Roman? Elle avait une chance sur 64 de gagner 6 fois à pile ou face. Elle est en veine, c'est tout, assure Noisette. Thierry, pour finir, doute pourtant que ce soit de bon augure. Quand tu gagnes avec 4 délégués d'avance, mais que t'en as 6 à pile ou face, comment peux-tu te prétendre le vainqueur? Impossible de capitaliser là-dessus pour la suite, en tout cas.
Jean-Luc Manot, vous qui avez couvert la précédente campagne présidentielle américaine, vous y étiez. Comment voyez-vous ce qui s'est passé hier?
Écoutez, moi, je trouve que le résultat qui est le plus surprenant, en réalité, c'est comment Trump donnait assez largement vainqueur et devancé par d'autres candidats, même si je pense, alors, ça peut être une analyse peut-être un peu curieuse, mais je pense que le vrai vainqueur, c'est Rubio.
C'est-à-dire, vous faites la même analyse qu'Alain Duhamel.
Ah ben, bah, formidable. Alain Duhamel est souvent de mon opinion. C'est Rubio, parce que il y aura pas, ni Trump ni Cruz ne sont des candidats très crédibles, d'abord pour la fin de la primaire et sans doute pour représenter les républicains. Quand on pense que la dernière déclaration de Cruz, qui m'a, moi, intéressé, et celle dans laquelle il dit un président qui ne commence pas sa journée à genoux en priant ne peut pas être chef des armées, je me dis qu'il va y avoir un moment où les Américains vont quand même se mettre un peu d'eau sur la figure, même les Républicains.
Ou pas.
Ils vont quand même réagir. Ils vont le faire, parce que le Parti Républicain, c'est plus compliqué que ça, parce que l'électorat républicain, c'est plus compliqué que ça. L'Iowa est une terre avec où la question de la religion est très forte, c'est évidemment moins le cas, plus on va se rapprocher de la côte Est, et y compris de la côte Ouest. Donc voilà, je pense ça. Ensuite, je pense que le deuxième point intéressant, c'est le vote anti-système. Et dans une certaine mesure, il y a un vote anti-système de droite et il y a un vote anti-système de gauche. C'est ce que porte Bernie Sanders, avec quand même une mobilisation très impressionnante de la jeunesse estudiantine à ses côtés. 15 000 volontaires venus de tout le pays faire la campagne dans les derniers jours de cette primaire.
Et malgré son âge,
Hélène.
Malgré son âge, il n'est pas tout jeune, Bernie Sanders. 74 ans, et c'est lui qui a eu les votes. Moi, je crois que l'idée du vote anti-système est très intéressante pour les États-Unis, parce que c'est ce qui se produit chez nous, en France, enfin, c'est ce qui monte un peu partout en Europe, et qu'on retrouve aux États-Unis, et ce qui n'était pas tout à fait prévu, même si Donald Trump, c'est un peu particulier, parce que lui, c'est un milliardaire quand même. C'est pas quelqu'un qui vient de la base, si on peut dire, de la base militante. C'est pas quelqu'un qui a un credo politique très fort. C'est quelqu'un qui est plutôt dans le rejet du système. Oui, c'est le rejet purement et simplement. Et ça, je trouve, c'est très intéressant. Et Hillary Clinton, qui devait représenter la candidate progressiste, démocrate progressiste, une femme qui plus est, et qui va peut-être se trouver un petit peu gênée, précisément parce qu'elle est l'émanation proprement dite de l'élite, la grande élite. Et c'est ce qui la dévalorise, paradoxalement, mais c'est ça qui la dévalorise au regard de son public. Et que ce Bernie Sanders la talonne à ce point-là, c'est très révélateur, même si l'Iowa, c'est pas tout à fait annonciateur de ce qui va se passer après. Oui, pour elle, c'est pas mal.
Reagan l'a perdu.
Oui, mais enfin, c'est quand même là que Barack Obama avait gagné aussi contre elle.
Trump se console, je crois, en disant que ça représente 1% quasiment, donc c'est rien. Oui. Cela dit, il avait dit qu'il ne parlerait plus Trump s'il était battu au premier caucus. Quoi. Bon. Après, sur l'âge, je remarque effectivement, il y a quand même plusieurs candidats de taille qui ont entre 68 et 74 ans. Ce qui est effectivement, comme on le disait, rassuré extrêmement Alain Juppé. Et apparemment, ça ne semble pas poser de problème. Enfin, je n'ai pas lu que là-bas, les gens signalent que c'est particulièrement vieux pour être président des États-Unis. Après, j'ai aussi découvert, parce que c'est ça l'avantage pour nous, j'ai découvert donc qu'on peut être encore plus réactionnaire que Trump. Ce que je ne savais pas, et un peu moins fou sans doute, mais plus réactionnaire. Donc
croyant, il y a la religion, ça a été.
Il y a la religion, mais sur le fond, il semble quand même particulièrement réactionnaire. D'abord, ils prennent tous les mêmes thèmes que Trump, on retrouve l'immigration, l'islamisme, enfin, ils sont tous à faire peur à tout le monde, enfin, c'est des thèmes que je trouve terrifiants, y compris en France. Après, moi, je pense que c'est quand même Hillary Clinton qui va gagner. Il y a quand même quelque chose, même si effectivement elle a été talonnée, même si elle a effectivement moins bien sortie, je pense quand même qu'elle a une allure, une expérience. Enfin, je trouve qu'on n'est pas absolument
le choix de la raison finalement.
Oui, le choix de la raison. Il y a quelque chose qui va l'emporter. Je crois que les Américains sont très réactionnaires actuellement, et je ne sais pas s'ils se mettront l'eau froide que souhaite Manon. Mais malgré tout, Hillary Clinton me sent quand même bien partie.
Je trouve qu'il faut s'interroger préalablement sur cet état d'exaspération de la société américaine après près de 8 ans de mandat d'Obama. C'est-à-dire que l'on voit que cet Obama, qui nous avait été survendu, je n'étais pas de ceux-là, a fracturé la société américaine comme jamais, et que son excès d'irénisme est en train de pousser à un excès d'agressivité, même si l'on voit les performances de Donald Trump, qui se comporte comme étant un clown et un démagogue, en effet. Je suis bien heureux qu'il ait loupé cette première primaire. Mais en même temps, les jeux ne sont pas faits. Et je pense que il faut s'interroger de savoir pourquoi cette société est dans cet état d'insurrection. Et je crois qu'elle est dans cet état d'insurrection parce qu'elle ne supporte plus, en effet, ceci nous parle à nous les Français, elle ne supporte plus la morgue des élites. Et d'ailleurs, cette morgue des élites porte aujourd'hui le démocrate qui peut gagner face à Clinton, et ne supporte plus surtout, et c'est encore plus important, ne supporte plus cette chape de plomb du politiquement correct qui, aux États-Unis, a envahi toutes les universités, a envahi tout le discours politique, plus encore qu'en France. Et donc, quand je vois que la France persiste à vouloir...
Mais où est-ce que vous l'entendez, le politiquement correct? Je n'entends que des choses épouvantables. Mais comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas candidat à la présidence des États-Unis. Aux États-Unis, je n'entends que des propos réactionnaires auprès desquels vous-même apparaîtrez comme un grand démocrate.
C'est ce que je suis en train de vous dire. Interrogeons-nous de savoir pourquoi aujourd'hui il y a un tel débondement de propos réactionnaires après justement cet excès de politiquement correct.
C'était Obama le politiquement correct, c'est ça?
Oui, ça me semble, si je me suis mal exprimé, je me redis. En effet, c'était en effet Obama était l'archétype à pousser à son apex ce conformisme intellectuel qui fait que ça a exaspéré tout le monde. Or, je vois qu'en France, ce même phénomène se produit dans les médias, se produit dans le monde politique, se produit avec... C'est ce qui est les lauriers tressés aujourd'hui à Madame Obama, alors que même encore en France exactement, le peuple réagit de la même manière qu'aux États-Unis. Sauf qu'il ne faudrait pas que, par excès de surdité, la France suscite également à son tour des candidats genre Trump ou genre Ted Cruz. Le Pen est quand même beaucoup plus modéré, je vous ferai remarquer, que Ted Cruz ou que Donald Trump. Donald Trump, il se prend pour John Wayne.
Est-ce que vous pouvez quand même dire, reconnaissez, vous critiquez Obama, et on peut le critiquer, moi j'ai tendance à critiquer les présidents des États-Unis, tous confondus. N'empêche que quand on voit qu'un des grands points
de désaccord avec lui. C'est sur la petite tentative que Clinton, dans un certain temps, et maintenant Obama, ont tenté à propos de la sécurité sociale. Simplement la protection sociale. Il faut expliquer aux Français
que
l'Obamacare, c'est considéré comme une horreur absolue, alors qu'il s'agit simplement...
Excusez-moi, mais visiblement, ça ne convainc pas, ne serait-ce que la gauche américaine, qui ne veut pas...
Mais vous êtes pour l'Obamacare, quand même. Vous ne pouvez pas souhaiter que les gens ne soient pas soignés aux États-Unis.
Je ne suis pas américain. Moi, je fais confiance au peuple américain. Je fais confiance au peuple américain à un point tel que je pense qu'ils n'iront pas jusqu'à élire Donald Trump. Mais je dis qu'il faut se méfier de ces excès d'angélisme qui poussent.
Moi, je pense que ce dont ont souffert les citoyens américains, ce n'est pas tellement la chape de plomb du politiquement correct, c'est plutôt l'impuissance du politique. Et c'est ça qui rejette à travers des candidats des excès. Oui.
D'abord, je suis ravi d'entendre Gérard Miller reconnaître que face aux ultra-réactionnaires, il faut quand même plutôt voter pour ceux qui le sont moins, et que quand il y a péril dans la demeure, il ne faut pas faire le délicat. C'est la première remarque. Mais la deuxième, qui est sans doute un peu plus directement dans le sujet, il est clair qu'il y a, par rapport au pouvoir central, un mouvement de révolte dans une grande partie des États-Unis. C'est une donnée qui est indiscutable, et le fait que Hillary Clinton soit la représentante de l'élite WASP dans cette élection, jusqu'à l'excès, lui pose une difficulté, même si je crois que naturellement, c'est la mieux formée et la mieux préparée à être présidente des États-Unis.
Allez, un mot dans un instant de Nicolas Sarkozy qui cartonne en librairie.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchière.
On refait le monde à 19h51 avec Jean-Luc Manot, Hélène Pilichowski, Yvan Rioufolle et Gérard Miller. Nicolas Sarkozy, écrivain à succès, l'ancien président a vendu plus de 67 000 exemplaires de son livre La France pour la vie, un chiffre à rendre jaloux tous les autres puisqu'il les explose, on va dire les choses comme elles sont. Alors, plier le match en librairie, c'est un premier pas vers l'Elysée. À votre avis, Jean-Luc Manot ?
Oh ben ça se saurait. Ce serait d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle. C'était sur le succès des livres que se faisait l'élection à l'Élysée. On a vu des critères pires que ça de sélection des candidats. Je crois que ça reste très ouvert, à la fois pour la primaire de droite et à la fois pour l'élection finale. Je crois que c'est une élection très ouverte. En même temps, il faut regarder ça avec intérêt. Il y a un socle chez Nicolas Sarkozy, c'est sa force. Il y a un socle, et ce socle est assez inexpugnable. C'est un socle de partisans, c'est une des caractéristiques propres de Nicolas Sarkozy. Sa structure d'opinion, c'est qu'il y a un socle de 20, 21, 22% de Français qui sont ses fans, qui sont avec lui et qui sont prêts à le suivre. Et c'est naturellement, dans une élection primaire dont on ne connaît pas le corps électoral ni le nombre de votants, un atout qui est un atout assez considérable. Il faut donc regarder ça avec sérieux, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore.
Mmh. 67 000 en tout cas en une semaine, alors peut-être c'est que beaucoup, c'est beaucoup, c'est peut-être un plafond, on verra bien, mais en tout cas c'est beaucoup Yvan.
En une semaine c'est beaucoup, c'est quand même un indice, c'est l'indice d'abord d'une évidence qui est qu'il suscite toujours de la passion, c'est un homme de scène, c'est un artiste. Quand il parle, je me souviens de ces conversations qu'il avait avec Johnny Hallyday ou avec Barbe Olivien, il parle technique, il parle de communication avec la foule, il a quelque chose que n'ont pas les autres. En tout cas, ce n'est pas un technocrate, ce n'est pas Juppé, ce n'est pas non plus un introverti, ce n'est pas Fillon, ce n'est pas un bon élève, ce n'est pas le maire. Et donc il a, à travers tout ceci, tout ce que n'ont pas ses concurrents, qui vont se retrouver face à lui très vraisemblablement, il a cet atout d'être cet homme qui enflamme malgré tout. Alors on laisse tomber pour l'instant ses reniements, ses manques politiques, etc. Mais je pense que cette passion qu'il suscite, cette vibration, cette séduction qu'il a encore en lui, peut l'amener peut-être à gagner, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, ça le place en bonne ligne de départ, me semble-t-il. Enfin, bon,
moi, il me semble que ce que révèle le livre, c'est qu'il y avait réellement une réaction épidermique contre Nicolas Sarkozy, même parmi les gens qui ont voté pour lui, et beaucoup parmi les gens qui ont voté par lui, en disant « je ne peux plus le voir en peinture ». Ça, c'est ce qu'on entend tout le temps quand on parle de Nicolas Sarkozy, alors que sur le fond des idées, il y a encore une adhésion et la personne est rejetée. C'est curieux sur Nicolas Sarkozy.
Mais c'est de la passion,
et par le
c'est
biais
une
du livre,
négative,
j'ai l'impression par le biais du livre, à mon avis, c'est temporaire, ça ne peut rien dire pour l'avenir, pour la présidence, je ne crois pas. Mais ça lui permet pour un moment, de squeezer cette image de lui que, dont plus personne ne veut. Enfin, il y a un vrai rejet de personne, de ses attitudes, de ses mimiques. C'est tout ça qu'on lui reproche. C'est-à-dire, c'est le filtre médiatique qu'on lui reproche,
Hélène,
ce qui était son atout
auparavant.
C'est le
rejet du monde médiatique, c'est notre rejet. Mais ce n'est pas le rejet de la France profonde.
Non, mais par le livre, il retrouve peut-être une intimité avec les électeurs qui ont envie de savoir ce qu'ils pensent réellement en disant « je vais oublier ses tics, je vais oublier tout ce qui m'agace en lui, je vais oublier ses meetings où il dit des grossièretés, je vais oublier tout ça et je vais peut-être retrouver dans le fond ce que j'attends. » Et c'est pour ça que son livre a suscité de l'intérêt. Paradoxalement, le roi des médias est obligé de retourner à la littérature, enfin la littérature, si on peut appeler ça la littérature,
à l'écriture,
pour retrouver un lien favorable avec les Français. C'est étonnant.
Je pourrais dire deux choses. La première chose, c'est que s'il est permis à quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec les thèses qu'il défend de le dire, c'est un bon livre. Moi, j'avais cette intuition. Je l'ai lu en entier. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas lu en entier un livre politique. C'est un livre qui est réussi, qui est intelligent, qui est bien écrit, qui est informatif. Je trouve plutôt... Ça, c'est une donnée. Quand un livre se vend, on peut aussi se demander simplement si ce n'est pas un bon livre. C'est un bon livre, je dois le reconnaître. La deuxième chose, je pense qu'il aura un effet, pas tellement sur les électeurs, mais qu'il aura un effet sur ses proches. Il se trouve que le prochain documentaire que je dois réaliser est sur Nicolas Sarkozy, ça tombe bien, que j'ai rencontré beaucoup des gens qui sont autour de lui. J'étais très frappé, avant la sortie du livre, du fait qu'eux-mêmes ne semblaient pas croire à Nicolas Sarkozy. Je ne parle pas du rejet dans l'opinion que je ne peux pas mesurer, mais en rencontrant un certain nombre de députés, de ministres, anciens, etc., j'étais frappé de voir qu'ils en parlaient évidemment avec de la sympathie, puisqu'ils sont dans son camp, mais qui n'avaient plus vraiment l'idée d'y croire. Je pense que ce livre peut avoir un effet sur eux. C'est-à-dire que c'est vrai, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes politiques qui soient capables d'écrire ce type de bouquin. Parce qu'on a vraiment le sentiment qu'il l'a écrit. Je crois qu'il y a là un souffle, en tout cas, qui ne passait pas à la télévision lorsque je l'ai regardé, d'ailleurs,
à 7 à 8.
À 7 à 8, où je ne l'ai trouvé pas bon du tout. Donc vraiment, le livre n'est pas de cette trempe-là. Le livre est très réussi. Autant la prestation télé était ratée, autant le livre était réussi. Je crois que c'est quelque chose qui peut redonner un petit peu de confiance à ses propres partisans.
Le succès amenant le succès, quoi, d'une certaine manière.
Le succès amenant le succès, et il faut bien dire qu'il est quand même d'une certaine trempe par rapport à ses partisans.
Très brièvement sur les réseaux sociaux, Benoît, pour conclure.
C'est vrai que ses fans sont aux anges, et dire qu'il ne suscitait plus l'intérêt des Français, soi-disant, heureusement, sinon combien il en aurait vendu, triomphe l'or. Félicitations, monsieur le président, votre popularité nous réconforte, tweet encore sarkozyste. Mais chez ses opposants, on dit que les adhérents avaient reçu l'injonction de l'acheter, et même ça suffit plus, c'est grotesque, dit Olivier. Oui, c'est vrai que sur 200 000 militants, ça craint pour lui, seulement 65 000 amourachés qui voteront pour lui à la primaire, c'est Noésis qui calcule ça. Cavert lui propose que ça soit le jury du Goncourt qui désigne le vainqueur de la primaire chez les Républicains, et puis Samia répond aux critiques que ce ne sont pas tant les chiffres de vente que la foule qui attend à chacune de ses dédicaces, qui est le signe de sa popularité et pour elle, de son futur succès.
Merci à tous les quatre, Gérard Miller, Hélène Pilchowski, donc Yvan Youfol et Jean-Luc Manot.